Bienvenue à vous tous pour ce culte conférence en ce temple, le foyer de l'âme, foyer pour chaque âme. Ici et maintenant, et pour toujours et partout, chacun est reconnu tel qu'il est et accueilli sans condition. Et nos chemins d'humains sont éclairés de grâce et de paix. Quelle que soit leur origine, leur durée, leur sinuosité. À vous qui êtes venus, la force qui fait tenir debout, la sagesse qui éclaire, l'énergie qui met en route et l'harmonie qui apaise, tout cela est donné pour vous, entre vous, par celui qui vous appelle, celui qui est la vie et l'amour. Je vous invite à vous lever pour la louange qui est l'émerveillement, la gratitude pour le bon, le beau et le possible. Tu n'as pas dit « je suis », mais « je serai ». Au fini, tu préfères l'infini. Tu te méfies infiniment des limitations, des définitions. Le grand large te va mieux que le confinement. L'horizon t'enchante, mais les murs t'épouvantent. Tu secoues la poussière du passé, et ceux qui regardent en arrière marchent de travers. Tu es en nous le possible qui veut naître. La vie qui veut vivre, le désir qui veut désirer, la patience qui veut patienter, la faim qui veut avoir faim, la persévérance qui veut persévérer. Tu es la promesse qui déborde le doute et le doute qui interroge nos paresses. Tu nous prends à revers. Tu nous bouscules jusqu'à provoquer en nous la question « Qui es-tu ?» Et cette question ouvre le chemin pour notre vie. Nous te louons pour cela. Amen. Et je vous invite donc à chanter le psaume 23 « Dieu, mon berger, me conduit et me garde ». Nous allons écouter maintenant la volonté de l'Éternel pour nos vies. Dans Jérémie, au chapitre 29 et au verset 11. Je connais, moi, les projets que je prépare à votre intention. Déclaration de l'Éternel. Non pas des projets de malheur, mais des projets de paix, afin de vous donner un avenir et une espérance. Nous allons maintenant prier. Là où l'esprit n'éprouve pas de crainte, là où l'on porte la tête haute, là où la connaissance est libre, là où le monde n'est pas brisé en mille parties par de hauts murs, là où les mots viennent des profondeurs de la vérité, là où le clair courant de la raison ne s'est pas perdu dans le sable stérile des habitudes et dans les pierres des peurs, là où tu appelles l'être à grandir, à élargir son regard et sa pensée, à passer à l'action, dans ce lieu de liberté, nous voudrions habiter. Par ta grâce, que cet espace soit déjà celui de notre âme, de notre être intérieur, guéri, restauré, pardonné, encouragé par toi. Amen. Je vous invite à vous lever pour entendre l'annonce de la grâce. L'Esprit de Dieu recrée sans cesse en nous son image. Il transforme nos esprits encombrés et pétrifiés. Il nous rend capables de donner du goût à notre terre et d'illuminer ce monde par sa clarté. Oui, Dieu désire la vie, notre vie, et la donne sans mesure. Rendons grâce à Dieu pour son don et sa bonté. Amen. Et je vous invite donc à chanter le cantique 253, les strophes 1, 2 et 3. Chantons de joie vers le Seigneur. Marie. Nous avons, je vous cite, reçu la parole et nous ne savons pas d'où elle vient. Pour vous, la science qui explique les origines de la matière et de la vie ne nous dit rien sur les origines de l'humanité. Sur la parole, et je vous cite encore, qui nous est venue au commencement. Or, vous soulignez que cette parole originelle est conservée dans les mythes et dans la Bible. Cette parole est, je vous cite une troisième fois, la parole inconsciente enfouie dans la mémoire de chaque homme. Vous êtes donc, en tant que psychanalyste de formation lacanienne, approprié le texte biblique en le confrontant à ses récits fondateurs. Pour cela, vous menez avec un groupe de lecteurs qui a l'expérience de la psychanalyse la mise en résonance des mythes bibliques. Vous avez écrit de nombreux ouvrages. Outre votre thèse de doctorat en 1979, « L'homme au statut, Freud et la faute cachée du père », je cite les livres les plus connus, « Le sacrifice interdit » en 1986, « La divine origine » en 1993, « Dieu n'a pas créé l'homme » en 1993 aussi, sauf si je me suis trompé, mais je pense que voilà, « Abel ou la traversée de l'Éden » en 1999 et « Freud jusqu'à Dieu » en 2010. Maintenant, nous allons faire silence pour vous écouter sur ce sujet, l'âme en question.
Merci de me recevoir dans ce beau lieu qui porte ce nom. L'âme, voilà un mot à la fois familier et lointain, mystérieux. J'ai vite compris que le mieux pour moi était de ne pas chercher à en donner une définition, mais plutôt des sensations. Juste vous faire sentir de quoi pour moi il pourrait s'agir, en deux courts exemples. Je lis chez François Cheng, « J'écris le mot âme, je le prononce en moi-même et je respire une bouffée d'air frais. » Il se trouve que « nefesh », âme en hébreu, vient du verbe « nafash », respirer, se reposer. Et puis maintenant, un bref dialogue. Après l'incendie de la cathédrale de Paris, je parle avec une femme fermement athée qui a passé toute sa vie professionnelle dans la recherche scientifique. Nous nous retrouvons quelques mois après l'événement et je lui demande ce qu'elle a ressenti lorsqu'elle a vu Notre-Dame brûler. Elle me répond « J'ai eu mal à un endroit que je ne connaissais pas. » Un endroit en moi. L'âme, le lieu où l'on ressent la mort dans l'âme, comme on dit. Mais aussi le lieu de la joie, avec la musique, par exemple, et la dilatation de l'âme. En bonne curieuse de la Bible, j'ai voulu regarder les emplois du mot « âme » dans les deux testaments. En hébreu, « nefesh », 682 fois dans la Bible hébraïque. En grec, « psyché », 94 fois dans le Nouveau Testament. De quoi me décourager de m'embarquer dans cette aventure. Vous me pardonnerez d'avancer comme on fait dans ma profession avec ce qui vient à l'idée. On m'avait demandé de trouver un titre dans le thème de l'âme. Il m'était venu, sans réfléchir, les nourritures de l'âme. Car j'avais en tête une drôle de question à propos de la France. De quoi se nourrit ce peuple qui le rend collectivement si pessimiste alors que, étonnamment, les Français se reconnaissent individuellement plutôt heureux ? Qu'est-ce qui nourrit et mal l'âme de ce peuple ? La France a-t-elle de quoi nourrir le peuple français ? Drôle de question, n'est-ce pas ? Apparemment, personne ne meurt de faim. Mais les évidences peuvent se retourner. Un petit exemple de ce que j'entends par retournement d'une question. J'évoque un instant un autre sujet, la durée de la vie. A priori, nos vies ne cessent de s'allonger, n'est-ce pas ? Et pourtant, j'ai le sentiment du contraire. Et j'ai été contente de le trouver exprimé par Régis Debré. Je le cite. « L'espérance de vie a diminué. Nous avions auparavant 50 ans plus l'éternité. Nous avons aujourd'hui 80 ans moins l'éternité. Je vous laisse faire le calcul. » Je reviens maintenant aux nourritures de l'âme. Où y a-t-il à manger pour l'homme en tant qu'il a une âme vivante ? La plus connue des paroles concernant la nourriture divine de l'homme se trouve au Deutéronome 8:3. C'est Moïse qui raconte au peuple d'Israël son histoire après la sortie d'Égypte. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères. Littéralement, la phrase qui suit, il vous fera connaître que pas sur du pain seul vivra l'humain, car sur de ce qui sort de la bouche de l'Éternel, l'humain vivra. Phrase que Jésus reprendra pour contrer Satan. Cette phrase est-elle à entendre comme vivre seulement de pain, ne vivre que de pain, ou bien vivre de pain en étant seul, sans autre, sans copain ? Dans la tentation au désert, il se pourrait que Jésus l'entende ainsi, l'homme ne vit pas seul de pain. Si j'accepte cette phrase comme universelle, que l'homme ne vit pas de pain seul, mais de paroles divines, alors la première question pourrait être, est-ce que nous vivons vraiment sur la parole d'un Dieu, au singulier, au pluriel, et si oui, quel Dieu ? Partant à la recherche du Dieu qui nous nourrit, quel Dieu, quelle nourriture ? Je vais vous emmener bien loin du Deutéronome et en même temps pas tellement loin d'ici et tout près dans le temps. Pour exemple, au défilé du 14 juillet 2012, pour ce jour qui risquait d'être pluvieux, à l'ouverture, une comédienne vint déclamer un extrait d'un discours de Gambetta du 14 juillet 1872, marqué par de fortes pluies. L'extrait se terminait ainsi. Pour vous rassurer, je vous dirai que ce temps est traditionnel malheureusement et qu'à tous les anniversaires du 14 juillet, il a toujours plu. Ainsi, le jour où eut lieu la Grande Fédération, la pluie tomba toute la journée, ce qui n'empêcha pas Paris tout entier, hommes, femmes, enfants, de toute classe et de toute condition, de rester impassible sous les injures du ciel, parce qu'en ce jour, il s'agissait de prêter serment à la République. Le discours de Gambetta n'est peut-être pas bien ajusté à l'histoire. En 90, le roi est encore là, on prête serment à la Constitution, si je ne me trompe. Mais je m'arrête sur un détail de son texte qui concerne notre sujet. Je reprends la phrase « Ce qui n'empêcha pas Paris tout entier de rester impassible sous les injures du ciel », a-t-il écrit. Ainsi, dans le discours de Gambetta, et en 2012 encore ici, la pluie sur les Parisiens est élue comme signe d'une hostilité céleste, les injures du ciel. Ce ciel qu'on avait cru enfin vidé du Dieu qui l'habitait auparavant loge à présent un ennemi qui insulte le peuple. Climat particulièrement violent si l'on y pense. Comment combattre ce qui n'existe pas et qui cependant vous veut du mal ? Cela sort bien du ciel, mais ce n'est pas de la nourriture. Avons-nous d'autres signes de cette disparition de la parole bonne qui vient du ciel ? Là, je vous emmène encore ailleurs. dans les couplets de la Marseillaise. Tant d'hymnes nationaux demandent la bénédiction, la protection divine, God save the Queen, ou In God is our trust. J'ai un doute, le texte original de la Marseillaise ne comportait-il aucune référence à Dieu ? Et là, pour moi, une première surprise. Le huitième couplet commence ainsi. Dieu de clémence et de justice, vois nos tyrans, juge nos cœurs, que ta bonté nous soit propice, défends-nous de ces oppresseurs. Tu règnes au ciel et sur terre, et devant toi tout doit fléchir, de ton bras viens nous soutenir, toi, grand Dieu, maître du tonnerre. Ce couplet a été supprimé tout de suite en 1792 par le ministre de la guerre. Ainsi donc, dans l'original de la Marseillaise, le ciel n'était nullement contre nous. L'auteur pouvait demander l'aide d'un Dieu clément et juste. Reste que cette bonne puissance au ciel ayant été supprimée, dans l'esprit de Gambetta et sans doute de bien d'autres, le ciel n'est pas resté vide. Il semble qu'une autre puissance, obscure et muette, s'y soit installée. Cette néfaste puissance peut même se servir de la nature, la pluie, contre nous. Comment un peuple peut-il se sentir heureux sous un ciel qui, désormais vide de toute bonté, est habité dans l'imaginaire par une présence muette qui l'injurie sans un mot ? Ces paroles de la Marseillaise que nous connaissons sont particulièrement violentes. Il est étonnant que nous n'ayons jamais vraiment remis en question les paroles de ce chant. Alors que tant de pays chantent l'amour de leur patrie, nous, nous chantons face à la haine des autres peuples, notre réaction belliqueuse à cette haine, dans des sentiments par des moyens que nous réprouvons aujourd'hui, dont ce vœu de voir couler le sang qui donnera à boire à notre terre. N'avons-nous pas mieux comme parole pour nourrir l'âme de nos jeunes citoyens ? N'y a-t-il aucun remède ? J'en vois déjà un, repasser la parole à la Marseillaise elle-même, du moins aux couplets qui, défaisant la censure, ont été ajoutés peu d'années après. Je n'ai pas encore trouvé leur auteur. Car le dernier couplet est un vœu inattendu, me semble-t-il, où il est enfin question de nourriture et d'union. Enfant, que l'honneur, la patrie, fasse l'objet de tous nos vœux, ayant toujours l'âme nourrie des feux qu'ils inspirent tous deux. Soyons unis, tout est possible, nos villes ennemies tomberont, alors les Français cesseront de chanter ce refrain terrible. Soyons unis, le mot n'était pas encore apparu dans cet hymne national. De quoi un peuple peut-il se nourrir ? Des paroles d'union, justement. Sous la plume de Régis Debray encore, je lis ceci. Les hommes ne sont unis que par ce qui les dépasse, et ce qui dépasse ne se touche ni ne se voit. Paul Valéry a raison, que deviendrions-nous sans le secours de ce qui n'existe pas ? Réponse de Régis Debray. Il n'y aurait plus de nous, rien que des moi-je, dans un présent impitoyable, sans la moindre palpitation d'avenir. En quête de l'âme, c'est à la recherche du « nous » que je vous invite. D'où viendra la parole qui nourrit l'union des cœurs, ou peut-être mieux dit de l'union des âmes ? Une parole du ciel qui serait bonne pour nous ? Une réponse est peut-être là, endormi peut-être par trop d'habitude. J'aimerais que nous allions voir de plus près, de tout près, le Notre Père. Je vais vous lire une traduction tellement mot à mot que cela va vous déranger dans un premier temps, excusez-moi. Père de nous, celui des ciels, dans les ciels, que soit fait saint le nom de toi, que vienne la royauté ou le royaume de toi, qu'advienne le désir de toi, comme en ciel, aussi sur terre. Le pain de nous, le suressentiel, donne-nous aujourd'hui, et laisse aller à nous les dettes de nous, comme aussi nous, nous avons laissé aller aux débiteurs de nous. Et ne nous emporte pas en une épreuve, mais libère-nous du malin. Voilà mon commentaire, fait avec d'autres qui se réunissent toutes les semaines depuis plus de 30 ans sans qu'on sache pourquoi, si je puis dire. Peut-être est-ce la nourriture. Alors, Père de nous, c'est le mot à mot grec. Nous ne prions pas notre Père à nous, à chacun de nous, mais le Père de nous. Pas de possessif dans ce texte, rien que des génitifs. Le Père de nous, le nom de toi, le pain de nous. Si nous entrons dans cette prière par cette porte du nous, il y en a d'autres, d'abord nous rejoignons la demande des apôtres, apprends-nous à prier. Nous, encore dans les premières paroles du Créateur, au début de la Genèse, ne parle-t-il pas lui-même en disant « nous » pour nous faire ? Nous ferons l'humain en notre image, selon notre ressemblance. C'est donc en l'image d'un « nous » divin que l'humain, mâle et femelle, est créé. Un nouveau « nous » donc, pour advenir image de Dieu ensemble. Ce pourrait être la prière pour qu'un nous soit possible sur cette terre. Le pain de nous serait-il celui qui peut nourrir notre être ensemble ? Ce nous, cette relation, ces relations de je et de tu, ont besoin d'un secours hors monde. Or justement, il s'agit de l'invisible Père, celui du ciel. Nous prions que le nom de Père soit mis à part, sanctifié. Que le règne de ce Père de nous arrive, nous demandons que son désir, désir de Père, advienne comme au ciel aussi sur la terre. Qu'est-ce que ce désir du Père, sinon qu'il y ait des fils, des frères, de l'un et l'autre sexe, qui puissent habiter la parole dans un nous, y compris pour dire nous ne sommes pas d'accord. Alors vient la nourriture, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, dit-on en français. Je me suis demandé pendant des années pourquoi cette redite que je trouvais bien faible dans une prière aussi importante. Les mots grecs, ton, arton, ton, epiousion, le pain, le, puis il y a le mot epiousion qui qualifie. Ce pain, il est réputé intraduisible. Étrange nourriture. On sent bien qu'il y a quelque chose d'appauvri et de répétitif dans « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien ». Dans ces deux versions du Notre Père, se trouvent dans Matthieu 6, chapitre 6, 9 à 13 et Luc 11, 1 à 4, le plus développé, celui sur lequel nous prions, est celui de Matthieu. Approchons-nous. Le pain de nous, le épiousion, donne à nous aujourd'hui. Ce mot qui qualifie le pain est mystérieux, tous les commentateurs le disent, mot unique sans autre emploi dans les évangiles qui pourrait nous en faire comprendre le sens. Des centaines d'hypothèses et de commentaires. Le pain du lendemain, le pain qui nous suffit. Quel est ce pain ? Comment ne serait-il pas d'une autre sorte que notre pain de tous les jours ? S'il doit nourrir notre être ensemble, il faut qu'il ait une qualité divine d'une manière ou d'une autre. Lorsque j'ai vu pour la première fois le mot grec, je n'ai pas osé y croire moi non plus. Pas oser croire qu'il soit si fort, qu'il soit resté tellement enfoui. Chose inattendue pour moi, je l'ai retrouvé dans la Vulgate, la traduction latine de Jérôme au IVe siècle. Et aussi, Tout près de nous, Simone Veil, la philosophe. Le mot, en latin et en français, est pour ces deux-là, Jérôme et Simone Veil, le décalque exact du mot grec. Jérôme, cependant, a traduit le même mot, une fois chez Matthieu, par supersubstantialem, et l'autre fois chez Luc, par quotidianum. Malheureusement, c'est le mot le plus ordinaire qui a gagné dans presque toutes les traductions du monde. Les hommes n'ont-ils pas osé continuer l'ouverture merveilleuse du pain de Jérôme ? Pas même lui, semble-t-il. J'ignore ce qui s'est passé à travers les siècles, mais plus près de nous, une femme a osé. Elle n'était pas chrétienne, Simone Veil, c'est peut-être pour ça. Elle a fini par trouver la source grecque pour dire dans sa prière « Notre pain, celui qui est surnaturel, donne-le-nous aujourd'hui. » On pourrait dire encore « Le pain, le suressentiel, donne à nous aujourd'hui. » Je ne sais pas ce que vous en penserez. Mais pour ma part, je ressens qu'on est là à la bonne hauteur. Le pain parole de Dieu ne peut être réduit au pain du marché. Le pain du ciel avec la figure de la manne. Et ce qui prouve bien, à mon sens, qu'il s'agit d'une prière pour nous, c'est qu'il s'agit maintenant, nourri du pain du Père, du pain de la relation céleste, de laisser aller les offenses, les fautes, les dettes qui nous sont faites et celles que nous commettons. Les deux étant d'ailleurs en général tout à fait corrélés. Je veux dire que ce que nous faisons subir à autrui n'est jamais sans rapport avec ce que nous avons subi nous-mêmes. Pourquoi cette affaire de laisser aller, qu'on traduit par pardonner, laisser aller les dettes dans cette prière ? Il me semble que cela a tout à fait sa place s'il s'agit bien d'une prière pour le « nous », l'être ensemble. En effet, qu'est-ce qui peut détruire le « nous » sinon les offenses entre nous ? Donc, il est logique que nous demandions comment en déjouer le piège auprès du Père. Laisse aller nos fautes, nos dettes, comme nous avons laissé aller celles de nos débiteurs. Pour que nous rétablissions entre nous ce « nous des frères, image de Dieu, ce « nous divin ». Quant à la fin de la prière, et ne nous conduis pas dans une épreuve, mais délivre-nous du mauvais, je ne me réjouis pas pour ma part de la traduction récente, car il s'agit bien dans le grec de demander au Père qu'il ne nous conduise pas lui-même dans une épreuve. Voici comment je comprends ce qui est apparemment scandaleux. Dieu nous ferait lui-même entrer en tentation, en épreuve. Mais il y a un glorieux précédent. Abraham. Quand a-t-il dû traverser l'épreuve du sacrifice interdit ? Il vient de reconnaître l'Éternel comme Dieu d'éternité. Alors, il est envahi par son Dieu imaginaire, un Elohim qui demandait sans doute en Chaldée, des sacrifices d'enfants. Et il faudra 3 jours pour qu'ils s'aperçoivent que l'Éternel est un autre Dieu qui ne veut nullement qu'il fasse du mal à son fils. C'est là qu'on voit qu'il y a des croyances nourritures qui ne nous nourrissent pas, mais qui nous dévorent. C'est le propre de l'idole. Il est dangereux de croire en Dieu, car il y en a 1000 figures dans notre imaginaire. Sous ces 1000 figures, ces 1000 voix, c'est alors le malin qui parle et nous demandons que le Père nous en délivre, comme pour Abraham. Quand est-ce que la parole nous mange au lieu de nous nourrir ? Lorsque le Dieu est une idole morte qui réclame ce qui le fait vivre, le sang des humains. Aujourd'hui, ce n'est plus la parole cruelle du sacrifice qui nous menace, c'est la parole séductrice de la consommation qui nous mange. les multiples paroles qui sortent de la bouche de nos écrans, les publicités qui viennent jusque dans nos têtes chercher notre attention, chercher dans nos yeux notre désir, dans nos poches notre argent. Le propre de la nourriture qui nous mange, c'est l'addiction dans laquelle elle nous plonge. Nourriture qui ne rassasie jamais. Il nous faut sans cesse revenir chercher une autre ration. On pourrait dire de toute drogue que toute drogue agit ainsi. C'est une nourriture qui nous dévore, une nourriture qui nourrit non pas l'homme, la femme ou l'enfant, mais qui nourrit seulement la faim, une faim qui ne s'arrête plus. Les Écritures aussi sont des lieux dangereux puisque la parole divine mal transmise peut nous manger. Les idolâtries, les hérésies idolâtriques sont des paroles qui nous mangent, des dieux que nous devons nourrir de notre vie. Les abus, les emprises sont des inversions de la nourriture. Le disciple est nourri d'un pain qui va dévorer sa vie, son âme. Est-ce que je peux terminer sans parler au moins dans un instant du pain et du vin dans ce lieu à cette heure? L'Eucharistie est-elle nourriture d'un nous? Ça ne paraît pas tout de suite, mais juste un peu plus d'attention aux mots des textes. Pour le pain, Matthieu écrit que Jésus, ayant donné à ses disciples, il dit « Prenez et mangez, ceci, littéralement, est le corps de jeu. » Ayant donné, il dit. Le verbe donner est au participe aoriste. On peut lire que Jésus a donné le pain avant de dire « Ceci est mon corps » ou littéralement le corps de jeu. Et dans Luc, pour le vin, c'est encore plus net. En prenant, je lis, « Et prenant une coupe, ayant rendu grâce, il leur donna, et ils burent d'elle tous. » Et il dit à eux, « Ceci est le sang de jeu de l'Alliance, répandu pour beaucoup. » S'il ne prononce « ceci et » que lorsque les disciples ont bu, nous sommes, si je puis dire, dans une autre histoire. Ce qui est appelé littéralement « le sang de jeu » n'est pas seulement ce qui est dans la coupe tenue dans les mains d'un seul. Le sang de jeu de l'Alliance, c'est la coupe de vin donnée par lui et bue par ses disciples, donnée par l'un, reçue par d'autres. Or, le sang, dit la Bible, c'est l'âme. Comment situer cela dans la recherche de la nourriture du nous? Il ne s'agit pas ici, me semble-t-il, de transformation. Il n'est pas écrit que ceci devienne mon corps, mon sang. C'est le présent d'un constat, ceci est. Le sang de jeu de l'Alliance. Étonnante expression. Il y aurait deux jeux possibles, un moi-jeu, comme on a parlé avec Régis Debray, un moi-jeu et un jeu de l'Alliance. Or, seul le jeu de l'Alliance permet le « nous », puisque l'Alliance, justement, c'est ce qui peut permettre de dire « nous ». Or, ce jeu de l'Alliance est dit seulement sur le vin. La recherche est donc infinie, en tout cas pour moi. En terminant, je veux vous dire combien je trouve souvent les célébrations eucharistiques bien loin de leur force symbolique, loin de nous. Et là, je passe à quelque chose de beaucoup plus quotidien pour nous et de plus léger. On m'excusera de faire le rapprochement. Mais je trouve les apéritifs, en revanche, beaucoup plus près. Une réunion d'amis, de voisins, de parents, de gens rencontrés qui ont le désir d'être ensemble. Une dose modérée, eucharistique, de boissons alcoolisées, qui fait baisser légèrement la conscience critique, qui nous rend bienveillants et contents d'être ensemble. Peu de travail et de frais pour les maîtres de maison, l'apéro, accessible à presque tous, un temps durant lequel on peut parler, nous, qu'on soit d'accord ou pas, c'est encore nous qui le disons ensemble. À votre santé, l'Eraïm, dit-on en hébreu, à la vie.
Peut-être parce que nous ne sommes pas le 14 juillet qu'il ne pleut pas. Il y a même du soleil qui rentre et qui éclaire, illumine tout le temple du foyer de l'âme aujourd'hui. Mais nous le savons bien ici et beaucoup d'autres aussi, il n'y a pas que le soleil pour éclairer, il y a aussi des paroles qui éclairent. Et nous l'avons été, Madame, par tout ce que vous nous avez dit ce matin. Et nous vous en sommes extrêmement reconnaissants. Et ce nous, ici, rassemblés, avec ceux qui sont aussi présents à travers leur écran, ce nous est peut-être un nous éphémère, avec des personnes qui viennent peut-être pour la première fois. Mais nous croyons ici profondément qu'avoir été nourris ensemble, C'est une expérience qui ne laisse pas indifférent ou indemne. Alors, vous nous y avez conduit dans cette expérience ce matin, dans ce nous original, peut-être familier pour certains et nouveau pour d'autres, mais ça a été, je le crois, un véritable nous. Et de cela aussi, nous vous sommes redevables aujourd'hui. Alors merci d'être venu, ce n'est pas la première fois, mais chaque fois est une fois unique et nous en avons été très heureux. Merci beaucoup, madame.
C'est maintenant le temps de l'offrande. Non, je me trompe. Ah oui, de la confession de foi. C'est la confession de foi. La confession de foi. Alors je vous demande de vous lever, s'il vous plaît. Alors c'est une confession de foi de Charles Wagner, donc le pasteur qui est à l'origine de notre communauté. Je crois qu'un jour, une source d'eau pure s'est ouverte. Elle a donné une eau vive qui ranimait au fond des cœurs blessés l'espérance et la joie. Au fond des cœurs endurcis, la bonté fraternelle. Au fond des cœurs errants et pleins d'ombre, la clarté suffisante et rassurante. Je crois qu'elle n'a pas été ouverte pour se refermer aussitôt. On ne peut l'enfermer dans un livre, une tradition, une église. Je crois que l'Esprit de Dieu ne se laisse ni capter, ni canaliser. Il est dans les pures traditions, dans les pieux souvenirs, mais il agit aussi, neuf, inédit, surprenant, dans les âmes de nos contemporains. Il nous inspire à chaque âge ce qui est le plus conforme aux besoins de chacun. Je crois qu'il est l'esprit de vérité, actif au fond de l'être, en ses profondeurs, où l'homme tient à Dieu par sa racine extrême. Je crois qu'il souffle sur les pauvres refuges, où languit parfois la douleur. Je crois qu'il souffle sur les hauteurs où l'air est toujours pur. Il n'a pas peur de marcher sur les routes inconnues, pleines de surprises. Il est la piété des vieux souvenirs et l'indomptable poussée vers l'avenir. Je crois que sa flamme s'est allumée quelque part où la clarté n'existait pas, avant même que retentissent ces mots, que la lumière soit. Je crois qu'il demeurera à jamais, et je l'appelle Christ. C'est le moment donc de chanter au cantique 290, au Père des Lumières.
Prenez place. Nous avons aussi des annonces à partager concernant la vie du foyer de l'âme, de la communauté ou d'autres choses encore. Pour aujourd'hui déjà, comme vous l'avez vu en arrivant, la librairie protestante Jean Calvin nous fait l'amitié et est fidèlement présente pour les cultes conférences avec un stand de livres comportant des ouvrages de Marie Balmary aujourd'hui, mais aussi des intervenants des cultes conférences des semaines dernières, et puis bien d'autres ouvrages aussi, donc n'hésitez pas à vous y attarder après le culte. Également, aujourd'hui, comme tous les dimanches au Foyer de l'âme, la collecte de produits au bénéfice de l'épicerie solidaire de la Croix-Rouge du 11e arrondissement. La liste des produits demandés en ce moment par l'épicerie solidaire est affichée sur un panneau dans l'entrée du temple et elle changera dimanche prochain. Donc vous pouvez encore apporter dimanche prochain ce qui est écrit cette fois-ci, et puis il y aura une nouvelle liste dimanche prochain puisque nous irons porter la collecte des quatre dernières semaines mardi à l'épicerie solidaire où on nous dira quels sont les nouveaux besoins du moment. Dans la semaine qui vient, mardi 15, le conseil presbytéral se réunira à 20h dans la salle du deuxième étage. Je voudrais vous signaler, ce qui n'est pas une réunion ouverte, mais c'est quand même intéressant de le savoir, que mercredi 16, je vais avec 5 personnes du foyer de l'âme, 5 seulement, c'était très limité, à une réunion interreligieuse organisée par la maire du 12e arrondissement sur le thème « Comment vivre ensemble en temps de crise ». Alors, c'est une réunion qui rassemblera donc des représentants des communautés présentes dans le 12e arrondissement. Le foyer de l'âme en fait partie parce que le 12e arrondissement relève du territoire du foyer de l'âme, même si nous sommes situés si le temple est dans le 11e. Et donc, nous retrouverons à cette rencontre les représentants de la synagogue Shiftei Israël, les représentants de la mosquée du 12e, des 5 paroisses catholiques présentes dans le 12e arrondissement et également une paroisse protestante évangélique. Voilà, et ce sera le moment, un temps d'échange sur donc ce thème proposé par la maire du 12e arrondissement. Le même mercredi 16 à 19h30, ce sera la réunion du groupe biblique du mercredi soir qui poursuivra son parcours sur le thème du corps humain. Et mercredi, nous explorerons ce que dans la Bible hébraïque est dit au sujet de la sexualité. Il y a un lien Zoom qui a été envoyé pour les personnes qui ne peuvent pas venir. Si vous souhaitez venir, vous pouvez toujours venir sur place ou me demander le lien pour la visio mercredi soir. Jeudi 17 à 12h30, comme tous les jeudis, ce sera la pause spirituelle, une heure dans le temple pour faire silence, pour partager autour d'un texte biblique et partager aussi un temps de prière. Et jeudi 17, toujours à 19h30, et là, ce sera une nouvelle étape dans le séminaire proposé et conduit par notre ami Denis Guénoun, le séminaire sur le Notre Père. Il sera question, cette fois-ci, du règne, que ton règne vienne. Et nous pourrons écouter à la fois la lecture, l'éclairage, toutes les ouvertures dont Denis Guénoun nous fait bénéficier et puis échanger ensuite. Donc, seulement par Zoom pour les personnes qui se sont inscrites. Si vous n'avez pas reçu, enfin, j'enverrai le lien Zoom dans la semaine, en début de semaine prochaine. Samedi 19 à 15h, il y aura un service d'action de grâce suite au décès de Madame Robert. Je ne crois pas que c'était une personne très connue au foyer de l'âme. Et puis dimanche 20 à 10h30, le culte Alors nous retrouverons le culte habituel. Mais après avoir tellement été nourris ces quatre dimanches des cultes conférences, cela nous a... Nous avons vraiment été portés à la fois en avant, ensemble, et puis intérieurement, pour notre âme, avec ce qui l'éclaire, la nourrit, la suscite, ou peut-être la ressuscite. Est-ce qu'il y a d'autres annonces ? Oui, merci Isabelle. Nous avons un petit problème de branchement sur la nouvelle sono du temple. Et avant de faire appel aux personnes qui l'ont installée, on voudrait savoir si quelques personnes ont quelques connaissances techniques en la matière. Ça nous serait très utile. Et donc Isabelle, qui se tient là au fond du temple, vous pouvez aller la trouver si vous connaissez quelque chose en branchement électronique divers. Enfin, elle expliquera précisément ce dont il est question. Mais n'hésitez pas à aller la trouver après le culte. Ça sera un grand avantage pour dimanche prochain, puisque l'enregistrement des cultes audio ne fonctionne plus. Et on ne sait pas très bien pourquoi. Voilà, donc merci si vous avez cette compétence qui, là, nous sera très utile. Alors, s'il n'y a plus rien d'annonce à dire, eh bien, c'est le moment de l'offrande, maintenant, effectivement. Le moment d'un geste à la fois personnel et communautaire. Un geste de solidarité pour que le foyer de l'âme assure sa mission. Juste un dernier mot, parce que j'ai quand même oublié une annonce, alors que c'était quand même assez gros. Je voudrais vous signaler, je ne le dis pas assez régulièrement, que au Foyer de l'âme, nous recevons chaque mois un certain nombre d'exemplaires de Paroles protestantes, qui est le journal de l'Église protestante unie en région parisienne, dans lequel on trouve non seulement des nouvelles des églises, mais également des dossiers, des articles. Donc il est arrivé le numéro de février, il se trouve sur une des tables au fond, donc n'hésitez pas à l'emporter et à le lire, parce que c'est fait pour ça. Le Conseil presbytéral a décidé il y a fort longtemps déjà d'en acheter un certain nombre d'exemplaires. Donc c'est pour vous, alors n'hésitez pas à les emporter, à les lire. Le dossier cette année, c'est « Voir les abus en Église et y faire face ». Et puis vous trouvez également un petit article qui s'appelle, qui n'est pas très loin de notre thème, Une parole qui fait vivre. Donc voilà, n'hésitez pas à emporter Parole protestante, c'est pour vous.
Nous allons maintenant intercéder. C'est le temps de la prière à celui que l'on nomme l'Éternel, notre Dieu. Notre Père, fais monter encore et toujours en nous ton Saint-Esprit afin que, libérés par ta grâce, nous reconnaissions les déchirures de ce monde, proclamions la bonne nouvelle et agissions en vue de la réconciliation, de la guérison et de la justice. Dans la joie de l'esprit de résurrection, nous résisterons aux volontés d'exclusion et aux dérives du désespoir en témoignant de la plénitude de la vie. Dans l'espérance, nous nous tiendrons aux côtés de nos contemporains dans le désarroi causé par tous les mépris et les crises d'identité, et nous discernerons les signes des possibles, les signes de confiance, les signes d'avenir. Ainsi rassemblés, nous pouvons dire à voix haute et dans notre cœur, comme nous le voulons, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Maintenant, je vous invite à chanter le psaume 67, que Dieu nous bénisse et nous garde. Maintenant, c'est la bénédiction de l'Éternel. Dieu qui vous crée pour la joie et la louange, pour la rencontre et le partage, pour la tendresse et la lumière, vous bénit et vous garde en sa bonté. Amen. Je vous invite à vous asseoir pour écouter un petit instant musical.